Voilà, de retour dans les studios de Canal Sud pour la suite de ce magazine, comme tous les midis. Et nous sommes en compagnie de Loïc, de Marcel et de Jean-Pierre de la compagnie BDS, de la compagnie, n'importe quoi, campagne BDS, je suis à fond théâtre en ce moment, donc du coup, c'est pas campagne, c'est compagnie. De la campagne BDS, donc boycott des investissements, sanctions. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Qui c'est qui veut nous présenter déjà ce qu'est cette campagne boycott des investissements sanctions?
Alors je peux commencer par une présentation. Donc la campagne est née d'un appel des Palestiniens, de la société civile palestinienne. Donc plus de 170 organisations ont lancé cet appel en 2005. Donc il est né d'une part, je pense, par l'échec du processus d'Oslo et d'une autre part par le fait que malgré toutes les critiques qui peuvent être faites à Israël de l'ONU, notamment, voilà, des dizaines et dizaines de résolutions de l'ONU qui ne sont pas respectées, et notamment aussi en 2004, la qualification d'illégale de la construction du mur de séparation en Cisjordanie par la Cour internationale de justice. Donc tous ces éléments ont fait que voilà, ces citoyens palestiniens ont lancé cette campagne
qui consiste
du coup à l'image de ce qui s'est fait en Afrique du Sud, d'appeler aux citoyens du monde un boycott, donc BDS, un boycott, un appel au désinvestissement des entreprises en Israël, des entreprises étrangères en Israël, et donc des sanctions pour punir Israël, et donc jusqu'à ce qu'elle respecte simplement, on va dire, le droit international. Donc il y a trois objectifs à cette campagne, donc je vais l'expliciter un peu après, mais ces trois objectifs, c'est d'une part le droit au retour des réfugiés palestiniens, donc qui est prévu par l'ONU, mais qui n'est pas respecté du coup par Israël, l'arrêt de la colonisation, en Cisjordanie notamment, et le troisième point,
égalité des droits,
et oui, l'égalité des droits à l'intérieur d'Israël, parce qu'il faut savoir qu'il y a des Palestiniens, des Arabes israéliens, des Palestiniens qui sont en Israël et qui n'ont pas les mêmes droits que des Juifs israéliens. Donc voilà, c'est les trois points de cette campagne. Donc comment elle se matérialise? Donc d'une part, le boycott. Un boycott qui peut être des entreprises israéliennes, donc on appelle donc dans le monde entier. Nous, à notre échelle en France, on a la campagne BDS France qui s'est formée en 2009. Donc on appelle les citoyens, les magasins, les grandes surfaces à ne pas acheter ou à ne pas vendre des produits issus d'entreprises israéliennes. Donc pour infliger une sanction déjà économique à Israël. Mais d'autre part, c'est aussi un boycott qui peut être culturel. Inciter les artistes internationaux à ne pas se rendre en Israël pour ne pas cautionner la normalisation de cet État. Voilà. Et un boycott sportif, la même forme, ne pas aller jouer en Israël, ne pas. Enfin voilà, un boycott culturel aussi à l'extérieur d'Israël, c'est-à-dire ne pas cautionner des représentations, enfin des concerts ou des. Représentations théâtrales, par exemple, qui sont sponsorisées ou qui mettent en avant la culture israélienne et qui vont aussi contribuer à normaliser cet État. Donc voilà les différents points du boycott. C'est aussi un boycott universitaire. C'est dire aux universités du monde entier de ne pas collaborer avec des universités pour toujours dans le même but, ne pas normaliser des relations avec un État qui n'est pas normal, justement.
Très bien. Et du coup, comment cette campagne, elle prend forme dans le monde entier? Alors, est-ce que c'est parce que c'est une campagne internationale, en fait. Donc, comment elle prend forme? Alors, vous êtes ici à Toulouse. Voilà, il y a un groupe toulousain, peut-être.
Oui.
Il y a des groupes dans différentes parties du monde.
Voilà.
Le dernier des comptes, c'est que la campagne se développe à l'heure actuelle dans 40 pays. Donc, c'est le nombre de pays dans lesquels la campagne, de façon plus ou moins importante, se développe et ne cesse d'augmenter. La campagne est certainement plus avancée dans d'autres pays qu'en France. Je pense en particulier en Grande-Bretagne ou en Irlande, ou même, toute proportion gardée, aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a une très forte participation de la jeunesse juive étudiante dans la campagne BDS, et aussi bon, d'autres plus âgés, mais je veux dire, qui font un travail très important, à côté duquel ce qui se fait en France est vraiment très très peu de choses.
D'accord, donc il y a vraiment une action forte BDS
absolument.
Aux États-Unis.
C'est absolument, étonnant. Oui, ça peut paraître étonnant, mais bon, eux ne sont pas entravés par des atteintes à la liberté d'expression comme il y a ici. Ouais. Et le fait que donc, cette jeunesse juive qui ne se sent absolument pas proche d'Israël et qui est très vocale, bon, interviennent beaucoup au niveau des campus, et fait passer pas mal de résolutions de désinvestissement, avec beaucoup de succès. Le succès ne cesse d'augmenter d'année en année. Mais ça, c'est juste pour donner un exemple.
Ouais, mais c'est intéressant de voir ce type d'exemple, ouais. Oui. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des premiers résultats qui sont sensibles, palpables, je sais pas, sur justement cette campagne, puisqu'elle existe depuis quand, cette campagne ?
Depuis 2005.
Est-ce qu'on voit des reculs ? Est-ce que les entreprises israéliennes ont plus de difficultés ?
Alors, les entreprises israéliennes rencontrent des difficultés. Par exemple, nous avons mené campagne au niveau international contre la présence de Veolia en Israël, puisque Veolia non seulement est présente en Israël, mais aussi est présente dans les territoires occupés. Et cette campagne qui a fait perdre beaucoup d'argent à Veolia a conduit au fait que Veolia cherche à se retirer. Alors le fait qu'il ne l'ait pas fait plus rapidement n'est pas dû à de la mauvaise volonté, mais à des problèmes de gros sous avec les entreprises israéliennes susceptibles de racheter. Donc je ne rentrerai pas dans le détail.
Mais en tout cas,
ils sont effectivement, si je puis dire, véritablement dans la merde à cause de la campagne BDS. Et c'est un des succès de la campagne BDS de le forcer à l'heure actuelle à se retirer complètement d'Israël.
Et en ce moment, la campagne se concentre sur quelle, parce que vous dites qu'elle s'était concentrée sur Veolia, peut-être qu'elle se concentre sur d'autres entreprises actuellement.
Il y a plusieurs campagnes, on va dire, de front, mais là, en ce moment, ce qui est un peu d'actualité, il y a la campagne contre SodaStream. SodaStream, donc, c'est une marque qui vend des gazéificateurs, donc, qui permet de mettre des bulles dans de l'eau. Et cette marque a une grosse usine dans les territoires occupés. Et là, récemment, on en entend pas mal parler, parce que l'an dernier et encore cette année, c'est un sponsor du festival de BD d'Angoulême. Donc il y a eu une pétition déjà l'année dernière qui s'est renouvelée cette année de plus de 100 dessinateurs contre ce partenariat qui tend, pareil, à normaliser les relations avec Israël. Et une autre chose qui a fait parler de cette campagne, c'est Scarlett Johansson qui a fait une des pubs pour cette marque, qui est aussi l'égérie d'Oxfam, enfin l'égérie qui faisait campagne pour Oxfam, et Oxfam a coupé ce partenariat à cause de ce soutien à SodaStream. Donc ça a fait pas mal de bruit l'année dernière. Voilà pour SodaStream.
Alors moi je voudrais juste revenir parce qu'on parle, on utilise des thèmes, on a parlé de la convention d'Oslo, on a parlé des territoires occupés, et peut-être qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu moins au courant ou qui connaissent pas trop la situation là-bas en Israël-Palestine. Est-ce qu'on peut revenir très rapidement, pas forcément trop dans les détails, mais en tout cas pour expliquer quelle est la situation actuelle?
Alors... On est loin maintenant, on est en 2014, donc on est déjà
2015 même.
Oui, je pensais 2014 parce que 2014 c'était le 20e anniversaire des accords d'Oslo, oui. Donc on est à 21 ans maintenant, effectivement. Donc c'est déjà loin. Les accords d'Oslo étaient des accords dans lesquels les Palestiniens ont consenti énormément. Et en particulier, on consentit à ce que Israël prenne le contrôle de plus de 60% des territoires palestiniens occupés. Je pense principalement à la Cisjordanie, mais à l'époque c'était aussi Gaza, en échange d'une vague promesse de création d'un État palestinien qui ne s'est jamais concrétisé, et aussi en échange de la nécessité pour les Palestiniens de maintenir l'ordre. Dans les villes, en particulier à la place de l'armée israélienne, ce qui faisait une économie. Bon, donc Le maintien de l'ordre, on a vu qu'il a duré plus ou moins, mais il y a quand même eu la deuxième intifada et il y a des révoltes continuelles des Palestiniens. La colonisation n'a jamais stoppé et l'État palestinien, plus personne n'en parle autrement que sous la forme de déclaration verbale ou de reconnaissance de principe d'un État qui n'existe que au niveau de la reconnaissance, mais qui n'existe pas sur le terrain.
Voilà. Sur les territoires occupés, peut-être pour préciser, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un État d'Israël et à côté un État, en tout cas des territoires contrôlés par l'autorité palestinienne, donc la Cisjordanie et Gaza, mais en fait c'est à peu près faux. Maintenant, depuis en 67, il y a eu l'invasion israélienne en Cisjordanie, à Gaza, au Sinaï et dans le Golan aussi. Et depuis, en fait, Israël contrôle la totalité de ce qu'on appelle ce qu'on appelait la Palestine mandataire. Depuis 2005, ils sont retirés de Gaza, mais ils exercent un blocus sur Gaza. Et en Cisjordanie, du coup, comme l'a dit Jean-Pierre, après les accords d'Oslo, finalement, il y a des petits confettis qui sont encore contrôlés par l'autorité palestinienne, mais la grande majorité, c'est Israël qui contrôle. Donc, cette image d'Israël et de Palestine à côté est fausse. C'est Israël qui contrôle tout le territoire.
Et alors, on parlait de la reconnaissance de l'État palestinien. Il y avait eu des processus qui avaient été un peu engagés au niveau de l'ONU, au niveau de l'Europe également. On en est où là-dessus, là ? Est-ce que ça avance ou est-ce que ça piétine ou est-ce que c'est juste de la poudre aux yeux ?
Bon, disons, un certain nombre de parlements européens ont voté des motions appelant les gouvernements à reconnaître l'État palestinien formellement. Les seuls, je crois qu'il y a deux États qui ont franchi ce pas-là, qui sont la Suède, et je crois qu'il y a eu un autre État européen qui a fait cette reconnaissance formelle. Alors d'abord, il faut quand même préciser que la Palestine, sur le papier, est reconnue par à peu près 130 États déjà à l'heure actuelle, et ceci depuis très longtemps. Mmh. Donc là, on passe peut-être de 100 à 132. La nouveauté est qu'il s'agit d'États d'Europe, donc entre guillemets blancs et occidentaux, mais les principaux États, disons ceux qui comptent véritablement, ne sont absolument pas prêts à signer, qu'il s'agisse de la France, de la Grande-Bretagne et bien entendu des États-Unis ou du Canada. Et là, donc, je dirais que ça n'a pas changé grand-chose au dehors d'un cadre symbolique. Mmh. Bon. Ce qui est peut-être plus important à mentionner, c'est que l'autorité palestinienne a fait une démarche en direction du Conseil de sécurité en vue de la reconnaissance de l'État palestinien, a échoué à une voix près. De toute façon, s'il y avait une voix de majorité, le veto américain aurait tout de suite opéré. Mais à la suite de cela, a décidé de saisir la Cour internationale de justice, d'abord de reconnaître la Cour internationale de justice, puis ensuite a annoncé son intention de la saisir. Ce qui est quand même, je dirais, plus important qu'autre chose, parce que la Cour internationale de justice, si tant est qu'elle mettrait en application son véritable pouvoir, représente quand même quelque chose. Autrement dit, est capable contrairement à la Cour... je parle de la Cour pénale internationale. Contrairement à la Cour internationale de justice qui ne rend que des avis. Bon, la réaction immédiate d'Israël a été de couper le versement des taxes douanières à l'autorité palestinienne et à l'heure actuelle, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, les gens de l'autorité palestinienne ne sont plus payés depuis plusieurs mois.
Et une autre conséquence aussi, c'est Israël qui essaye de carrément supprimer la Cour pénale internationale. Donc c'est...
Bon, alors revenons à la campagne BDS et à Toulouse peut-être, à moins que vous ayez des choses à rajouter. Mais... alors à Toulouse, il y a des actions qui sont menées. Quelles sont-elles jusqu'à présent et est-ce qu'il y a eu des difficultés, sans doute, récemment?
Jusqu'à présent, donc nous, ça fait depuis certains depuis 2009 qui militent pour le BDS à Toulouse. Donc les principales actions, c'est d'une part des actions d'information, donc une distribution de tracts, comme on a pu faire dernièrement, souvent devant des grandes surfaces qui commercialisent donc des produits des entreprises israéliennes, ou devant d'autres opérateurs comme Orange, par exemple, qui a une filière en Israël, qui implante un réseau téléphonique dans les colonies. Donc colonies, il faut encore le rappeler, qui sont illégales au point de vue international, ou du droit international. Donc du coup, c'est quand même
une complicité
de la colonisation. Donc des distributions de tracts pour informer et les clients et peut-être les dirigeants des entreprises, des commerces qui sont peut-être pas au courant. Donc ça d'une part. Et ensuite, ça peut être aussi la même chose devant des concerts. Par exemple, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, une campagne envers Julien Clerc qui se produisait en Israël et qui est en même temps représentant, enfin en tout cas auprès des droits de l'homme, je ne sais pas, il a un poste symbolique, je crois. Donc du coup, c'était un peu une contradiction avec ce poste. Donc voilà, on l'a interpellé à Toulouse, mais ailleurs en France, pour qu'il n'aille pas se rendre en Israël. Bon, finalement, ce qu'il a quand même fait. Donc voilà, c'est des actions de ce type. Et après, ça peut être des actions aussi où on va rentre dans un magasin où on sélectionne les produits incriminés. Donc c'est souvent des fruits et légumes, des avocats, des agrumes qui viennent d'Israël, qui sont parfois même mal étiquetés, sûrement intentionnellement, pour masquer le fait qu'ils viennent d'Israël. Il y a des lingettes bébés, des lingettes démaquillantes, il y a énormément de ces produits qui viennent d'Israël, du soda stream. Voilà, tous les produits qui viennent d'Israël. Et on prend la parole dans les magasins en interpellant les clients en disant voilà, ces produits viennent d'Israël, ils participent directement à la colonisation, donc il ne faut pas les acheter et les magasins, il ne faut pas les vendre.
Mmh. Oui, alors je peux aussi mentionner quand même quelques campagnes, disons, particulières qu'on a menées ici sur Toulouse. Mmh. Déjà en 2011-2012, on a mené une campagne avec pas mal de rassemblements et même de rencontres au conseil régional pour demander que le conseil régional ne finance pas la CCFI, c'est-à-dire la chambre de commerce franco-israélienne, la chambre de commerce franco-israélienne pour des voyages de PME en Israël. Et on a quand même obtenu une clause qui est qu'elle s'engageait à ne pas financer des entreprises ayant des activités dans les territoires occupés. Bon, c'était pas grand-chose, mais c'était quand même effectivement un petit succès. On a mené campagne aussi au niveau du salon Aéromart, qui a lieu tous les 2 ans, hein, donc en 2012, contre la présence de 2 entreprises de l'aéronautique militaire.
Ouais, voilà, Aéromart, c'est un salon aéronautique et militaire.
Voilà, qui a lieu à l'automne, tous les deux ans. Et cette année-là, on a réussi à obtenir que ces 2 entreprises, Elbit Systems et IAI, ne se pointent pas, annoncent qu'elles ne venaient pas au salon. Donc ça, c'était aussi une réussite. On a mené campagne contre le Printemps du cinéma israélien, qui est un festival organisé par l'ABC.
D'accord.
Mais qui est complètement, en fait, cornaqué, dont le programme est choisi par le consulat d'Israël à Marseille, avec systématiquement un déplacement du consul à Toulouse, pour prendre la parole. Autrement dit, il n'y a aucune indépendance par rapport à l'État israélien. Mmh. On n'est pas contre le cinéma israélien, loin de là, ni contre les festivals, ni l'un ni l'autre. Mais lorsque...
Ni contre le cinéma de l'ABC, ni...
Absolument. Mais lorsqu'il s'agit de choses qui sont livrées clé en main, avec un choix très particulier de films par par l'État israélien, là on dit non, il faut faire autrement. Et puis on a fait une manifestation en septembre, manifestation de rue à Rennerie Bellefontaine pour débaptiser, parce qu'il faut savoir que Toulouse est jumelée avec Tel Aviv. Et donc pour débaptiser la place Tel Aviv et le rebaptiser place de Gaza. Il y avait à peu près 150 personnes. Et bon, c'est une action qui a fait parler d'elle. Voilà, bon, je m'étends pas. Il y en a d'autres. Ouais, il y a eu d'autres actions, disons, ponctuelles dans lesquelles on était un certain nombre, 30, 40, 50, pour véritablement manifester sur une cause bien déterminée. Contre SodaStream, AFR 3 Midi-Pyrénées, puisque France Télévisions fait de la pub pour SodaStream, etc.
Oui, j'ai oublié de le préciser quand j'ai parlé de SodaStream, il y a un contrat qui est vraiment gênant. France Télévisions fait de la pub pour SodaStream, notamment dans ces jeux télévisés ou qui donnent des lots en fait de SodaStream. Donc du coup, ça va faire peut-être 2 ans déjà qu'il y a une campagne contre ce partenariat. Et là, c'est hier, il y a Libération qui a publié une de nos tribunes de la campagne BDS pour demander pour l'arrêt de ce partenariat.
Bon, alors venons-en aux actualités récentes. Vous avez des opposants à vos campagnes. On imagine bien qu'il y a des oppositions forcément, puisque vous critiquez un État. Et donc là, récemment, le 17 janvier, il y a eu des problèmes lors d'une diffusion à Balma-Gramont. C'est important, je pense, d'en parler.
Oui. Je vais en parler rapidement. Donc samedi 17, voilà, on a fait une distribution de tracts devant le Auchan de Balma-Gramont, au niveau du métro. Et donc on était une petite dizaine à distribuer des tracts. Et quelques minutes après le début de cette distribution, il y a pareil, une petite dizaine d'individus qui s'est rapproché de nous et qui a commencé à nous insulter et nous reprocher notre soutien à la Palestine. Et qui ont même arraché certains de nos tracts et qui ont même donné des coups à plusieurs d'entre nous. Et donc voilà, un événement inquiétant pour la liberté d'expression, pour une simple distribution de tracts. Et suite à ça, on a un peu rassemblé toutes les forces de soutien, en soutien à la Palestine, que ce soit des partis politiques, des syndicats, des associations, pour faire une démarche unitaire afin de réagir, de nous laisser notre liberté d'expression et que cette espèce de milice qui vient nous faire peur quoi, donc du coup on a écrit une lettre au préfet pour lui demander de réagir déjà d'essayer de trouver qui sont ces personnes. Et surtout pour qu'ils mettent tout en œuvre pour qu'il n'y ait plus ce genre d'attaque même.
Mmh. Voilà. Oui, enfin bon, juste pour dire quand même, parce que bon, Loïc parle d'attaque seulement, mais il faut quand même préciser qu'un de nos camarades a été blessé et a reçu 3 points de suture à la suite de ça. Donc c'était pas n'importe quoi comme attaque. Mmh. C'était pas quelques gifles. Voilà.
Et c'était surtout prémédité, c'est un groupe prémédité, puisqu'ils étaient au courant de ce qu'on faisait. Nous, c'était une...
Ils vous attendaient, quoi.
Voilà, c'était une distribution de tract où on l'envoyait dans nos réseaux. Donc, bien sûr, le mail peut très vite arriver chez ce genre de personnes. Et du coup, ils nous attendaient clairement. C'était pas fortuit comme attaque.
Et donc, demain, 15h, rebelote.
Voilà, donc du coup, en réaction, on retourne au même endroit, même heure. 15h demain à Balma, avec le soutien d'une quinzaine ou une vingtaine d'organisations pour dire simplement on a le droit de faire ce qu'on fait et personne ne nous en empêchera quoi.
Et puis rappelez que les critiques envers l'État d'Israël, vos critiques en tout cas sont fondées et que c'est pas une intimidation peut-être qui vous arrêtera.
Enfin, exactement.
Peut-être que j'y vais un peu, je vais peut-être un peu loin.
Mais... Non, tu ne vas pas trop loin. Je pense que c'est exactement ça. Je veux dire que bien évidemment c'est pas ça qui peut intimider la campagne BDS ceux qui chercheraient à l'intimider par ces moyens-là sont assez stupides parce qu'ils ne se rendent certainement pas compte que la campagne BDS n'a pas une seule facette. Autrement dit, c'est pas simplement distribuer des tracts à l'entrée des supermarchés. Il y a de très nombreux, on en a parlé déjà précédemment, donc il y a de très nombreux aspects de la campagne qui, eux, sur lesquels, de toute façon, ils n'ont pas prise. Mmh. Donc la campagne va continuer à se développer.
Très bien. Et donc du coup, rendez-vous demain à 15h devant le métro Balma pour la distribution de tracts, pour vous rencontrer également, vous soutenir. D'accord. Et si on veut vous contacter, rejoindre la campagne, alors il y a un mail, il y a aussi un blog sur internet.
Il y a un blog, il y a une page Facebook, campagne BDS
page
Toulouse.
Facebook, peut-être, ouais.
Campagne BDS Toulouse, voilà, et puis la page Facebook française, campagne BDS France, campagne voilà, sur Facebook, qui a beaucoup de succès. Et donc un mail, campagne BDS31, donc tout attaché, @gmail.com.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à l'invitation.
Merci à toi.
Et puis, bon courage pour la suite de la campagne. On continue le magazine, on écoute un petit peu de musique et ensuite ce sera le moment théâtre avec Marie-Madeleine et ses invités, l'invité du jour. Il s'agit de Fabrice Guérin, Deux grenades dans un jardin, c'est le nom de la pièce de théâtre de Fabrice Guérin. Donc on les rejoint après une courte pause musicale.